Donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui c'est à mon tour de faire un message. Donc Jean-Luc, tu as introduit ta vision et Sylvie, elle a aussi donné sa vision. Aujourd'hui, dans cette semaine, Dieu a été généreux avec nous et nous a donné des visions. Et moi j'en ai eu deux mardi. Donc je vais vous partager ça. Donc la première vision que je vais vous donner est la deuxième en fait. Et j'étais en voiture pour venir ici à Wavrin mardi. J'étais donc avec Sabine, j'étais donc en prière. La voiture pour moi c'est quelque chose qui favorise la prière. Et j'ai eu une vision. Alors c'est difficile à exprimer la vision parce que ce sont comme des images. Et c'est difficile après de retraduire ça avec des mots. Donc je vais vous dire ce que j'ai ressenti. Donc voilà. Je viens. Je parle à ton cœur. En son temps, je te visiterai. En son temps, je te guérirai. Voilà. Cette parole, elle a été pour moi, mais elle a été pour vous tous, pour tous ceux qui entendent cette parole. Et tout de suite après, j'ai dit, mais Seigneur, que fais-tu pour ceux qui n'entendent pas? Il m'a dit, laisse agir l'Esprit Saint. Voilà, laisse agir. La première vision que j'ai eue, c'était au midi, j'étais aussi en prière pour préparer le message d'aujourd'hui. Et c'était un peu différent. La parole me disait, enfin c'est ce que je ressentais en moi, je vais te présenter des personnes. Et il y avait devant moi deux personnes, mais il y en avait d'autres derrière. Mais ces deux personnes étaient vieilles et ridées. Et tout de suite, je me suis dit, mais je vais essayer de les convertir, leur parler de Jésus, de la croix, du message d'amour de Jésus. Et tout de suite, on m'a dit, non, Rémi, laisse parler ces gens. Et donc, j'ai laissé parler ces gens. Et ces gens me disaient des choses horribles, qu'ils ne croyaient pas en Dieu, qu'ils refusaient tout amour. Et il fallait laisser parler ces gens. Et là aussi, c'est l'Esprit Saint qui agit. Et en même temps, j'avais quelque chose en moi qui me disait, sois humble. Voilà. Donc c'est deux images que je vous apporte qui sont pour vous, pour nous tous. Il y a des choses, la deuxième image que je vous ai parlé, je ne la comprends pas complètement. Donc voilà, et à vous d'interpréter. Sylvie, tu nous as parlé d'un bois mort que le Christ veut réchauffer et rendre vie à ce bois mort. Ben, ces deux visages, peut-être ridés et vieux, c'est peut-être voilà quelque chose que Dieu veut nous parler à notre cœur. Donc, au niveau du message d'aujourd'hui, c'est un message concernant les prophètes. Donc les prophètes, donc c'est toujours issu de ce que je vis avec Daniel Sten au niveau des cours d'hébreu, initiation. Et je l'ai repris mais complètement différemment. J'ai pas voulu faire un cours puisque c'est pas mon rôle, mais simplement vous donner l'essentiel de ce que j'ai reçu. Donc être prophète, c'est en quelque sorte être un rapporteur. Un rapporteur de quoi? Ben un rapporteur de la parole de Dieu. Et les prophètes doivent, auprès du peuple, donner la parole du Seigneur. Voilà. Je vais mettre mes lunettes. Donc, dans les prophètes, il y a une certaine obéissance à avoir, puisqu'ils sont rapporteurs, et il faut obéir. Il y a donc différentes façons d'obéir. Et dans la Bible, il y a la première personne qui a obéi à Dieu, c'est Noé. Et Noé, ben, il le fait de façon remarquable. Hein. Donc dans Genèse 6, 22, Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné, il exécuta fidèlement. Ça, c'est dans le verset 7 à 5. Voilà, donc Dieu fit tout ce que Dieu lui avait ordonné, Noé fit tout ce que Dieu avait ordonné, et il exécuta fidèlement. Donc c'est une attitude de Noé. Après, nous avons Abraham qui a fait autrement. On prend Genèse 17:1. Abraham était âgé de 99 ans. Le Seigneur lui apparut et lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis-toi à mon gré, sois irréprochable. Je prends aussi Genèse 6:9. Ceci est l'histoire de Noé. Noé fut un homme juste et irréprochable entre ses contemporains. Il se conduisit selon Dieu. Ces deux versets montrent deux choses intéressantes, c'est-à-dire que l'aspect irréprochable, c'est deux hommes qui sont face à Dieu irréprochables. Mais il y a une nuance quand même dans ces deux mots, c'est qu'il y a un petit ajout avant le mot irréprochable qui donne une différence. Pour Abraham, c'est « marche devant moi ». Et pour Noé, c'est « marche avec Dieu ». Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire que Noé, lui, il a une attitude. Voilà, je fais ce que Dieu me demande, et il le fait. Par contre, marche devant moi, en hébreu, c'est aussi viens négocier avec moi. Viens parler avec moi. Et c'est ce que va faire Abraham tout le temps, notamment quand il s'agit de défendre Sodome. Voilà. Donc, il discute de Sodome, et on voit qu'Abraham, il a à cœur, non pas lui, mais il a à cœur de défendre toute la ville. Et il y a cette négociation qui apparaît, qui dit, voilà Seigneur, ici il y avait un, 10 justes, et etc. Et puis, voilà, il discute. Et ça, Dieu aime cette confrontation. Il aime parce que c'est positif. C'est-à-dire que l'action d'Abraham est positive. Il discute des décrets divins, mais de façon positive. On voit ça aussi dans la lutte de Jacob avec l'Éternel. Donc dans Ésaïe 58, 8 à 9, c'est alors que ta lumière poindra comme l'aube, que ta guérison sera prompte à éclore, ta justice marchera devant toi, et derrière toi la majesté de l'Éternel fermera la marche. Alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu supplieras et il dira « Me voici ». Oui, si tu bannis de ton sein toute oppression, le geste violent et la parole malfaisante. Ce verset-là nous indique que pour être en conversation avec Dieu, il faut se mettre en disposition, il faut se préparer à être en relation avec Dieu. En faisant quoi ? En marchant devant lui et en étant digne, en enlevant tout ce qui est oppression en nous. Voilà. Un autre verset, dans Genèse 32, 29, ça concerne Jacob. Alors c'est Jacob qui veut revenir voir son frère Ésaü. Simplement, Ésaü veut le tuer parce qu'il a pris son droit d'aînesse. Donc, dans la nuit, il va y avoir un combat. Avant de retrouver Ésaü, il va y avoir un combat entre un ange et lui, avec Jacob. Donc, le verset, il reprit. « Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as lutté contre Elohim, les hommes, et tu les as vaincus. » Donc, l'expression « contre Elohim », ça veut dire un combat dans le sens positif, constructif. Et ce combat est important parce que voilà, ça va évoluer vers cette relation entre Ésaü et Jacob. On voit aussi à travers cette histoire que Jacob a reçu le caractère d'Abraham, c'est-à-dire il va discuter avec Dieu. Il va se confronter avec Dieu. Jacob, ça veut dire supplanter. Et Israël, ça veut dire un prince avec Dieu. Donc Jacob devient prince avec Dieu. C'est quelque chose de très important. Ensuite, il y a avec Moïse et Corée, il y a aussi des choses au niveau de Nombre 16-22. Mais ils tombèrent sur leur face. Ils dirent : Seigneur, Dieu des esprits de toute chair, quoi ? Un seul homme aurait péché et tu t'irriterais contre la communauté tout entière ? Bon, alors c'est l'histoire de Moïse et Corée. Corée, c'est un homme très important à l'époque, qui avait une influence très forte. Simplement, Corée est lévite et c'est un homme qui veut le pouvoir, et il veut devenir prêtre. C'est-à-dire qu'il dit, qui demande à Moïse, tu t'en vas, c'est moi le chef. En quelque sorte, c'est ça. Hein. Et Moïse dit, on met ça devant Dieu. Demain, tu viens avec tes hommes. Il y a un cérémonial et on met ça devant Dieu. Ce qui se passe après, c'est terrible pour eux. Hein. Corée, il meurt. Mais c'est la main de Dieu qui agit. Voilà. Là aussi, il y a une relation entre, Moïse veut défendre Israël parce que Dieu dit je vais les détruire tous. Et Moïse dit non, je ne vais pas les détruire, il ne faut pas les détruire, mais simplement punir celui qui a péché. Et donc ça sera Corée qui va payer. Voilà. La révolte d'Ésaïe maintenant, en Ésaïe 64:8. Ne va pas trop loin dans ta colère, Éternel. Et ne garde pas à jamais le souvenir du crime. Ah, de grâce. Regarde ton peuple, nous tous. Isaïe, là, de nouveau, plaide pour son peuple qui a péché, qui est pécheur. Et il est comme un avocat. Donc, voyez, les prophètes sont là toujours pour défendre le peuple. On a Moïse qui est face à l'Éternel. À Exode 32:32. Et pourtant, si tu voulais pardonner à leurs fautes, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. Là, c'est Moïse qui met complètement sa vie en jeu pour défendre la vie du peuple, le peuple d'Israël. C'est un combat avec Dieu, mais positif toujours. Le prophète Élie qui déprime. Alors ça se trouve dans Roi 19, 11 et 12. Il répondit, « J'ai fait éclater mon zèle pour toi, Seigneur, Dieu Stévaoth, parce que les enfants d'Israël ont répudié ton alliance, renversé tes autels, fait périr tes prophètes par le glaive. Moi seul, je suis resté et ils cherchent aussi à m'enlever la vie. » La voix reprit, sors et tiens-toi sur la montagne pour attendre le Seigneur. En fait, ce que demande Dieu ici, c'est il demande à Élie, viens me voir et discute, défends ton peuple, défends-le. Ils sont indéfendables, mais viens me voir et discute du peuple. Ça, c'est important. Toujours, le prophète est là pour aussi discuter des fautes qu'ont fait les peuples, mais pour les défendre. Voilà. Donc les prophètes de l'Éternel ont toujours su établir une relation personnelle avec Dieu, comme les patriarches Abraham, Jacob et Moïse. Ils ont osé de faire face à Dieu, face à l'Éternel, pour faire changer d'avis les décrets de Dieu. Et ils y arrivent. Alors dans la pensée juive, dans la pensée judaïque, le destin n'est pas du tout scellé. L'homme peut toujours venir plaider sa cause auprès de Dieu. Toujours. Et ça, c'est très positif parce que, voilà, dans notre vie personnelle, dans notre vie du pays, dans la vie mondiale, on peut changer les choses. Voilà. Donc, le message ici, par rapport à à tout ce que je viens de lire, c'est que, bien sûr, nous ne sommes pas prophètes, mais nous avons tous, chacun dans notre famille, chacun un voisin, ou un groupe de personnes qu'on connaît qui sont en difficulté. Et nous pouvons tous avoir cette action auprès de Dieu, être intercesseur et de dire « Seigneur, voilà, tu connais leurs péchés, tu connais leurs faiblesses, tu connais, mais viens les aider, Seigneur, viens. Moi seul, je peux rien faire, mais toi, tu peux tout faire. » Et je voudrais finir avec une parole de Jésus, qui est un peu curieuse, parce que, voilà, c'est dans Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Il vous est avantageuse que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous passe, voilà. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est quand même incroyable. Et je crois qu'effectivement, il est avantageux que le Seigneur soit parti, qu'on ait tous l'Esprit Saint. Et dans ma vision que j'ai eue dans ma voiture, je vais vous l'expliquer un peu plus comment ça s'est passé. C'est comme un vent qui est arrivé sur moi et qui a pris tout mon corps, de la tête aux pieds. Et j'ai traduit ça par « je viens ». Mais ce souffle, vous voyez, c'est un souffle pour tous. Un souffle qui est là, qui est doux et qui est irrésistible, qui vous traverse et qui reste en vous. Je parle à ton cœur. Il parle à votre cœur. Il vous est avantageux que je m'en aille, pour que vous ayez le Consolateur. Là, je crois que ce que j'ai traduit par « Dieu me parlait », c'est l'Esprit Saint qui m'a traversé, qui m'a parlé. Le Consolateur. Voilà. Soyez bénis. Et voilà. Soyez aussi que cette... la deuxième parole qui m'est arrivée, qui dit « Je te visiterai, je te guérirai ». Ça se fait en deux temps ou en une seule fois, je ne sais pas. Mais c'est une réalité. Soyez bénis. Merci.